L'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Exprimez-vous, c'est la libre antenne, 20 minutes pour commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. C'est l'occasion, évidemment, si vous le souhaitez, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas la une de la presse, des sujets dont on n'a pas forcément parlé dans l'émission ou pas suffisamment parlé sur notre antenne. D'ailleurs, si vous nous écoutez à l'étranger, n'hésitez surtout pas à nous contacter, à nous rejoindre ici à Paris pour nous parler de l'actualité dans votre pays. 33 9 693 693 60 09 693 693 70 si vous êtes en France et vous continuez également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous étiez très nombreux cette semaine et vous l'êtes encore ce matin à souhaiter revenir sur la condamnation de l'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné à la prison à vie. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, actes de torture et viol lorsqu'il dirigeait le Tchad dans les années 80. Bonjour Mokhtar.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de N'Djamena et vous allez un peu à contre-courant de tout ce qu'on a pu entendre cette semaine dans l'émission. Vous vous dites que cette condamnation d'Hissène Habré est un non-événement.
Oui, non-événement. Avant de commencer, mes pensées vont d'abord à toutes les victimes tchadiennes. Et je voudrais dire que ce procès-là et puis la condamnation est un non-événement pour moi pour deux raisons en fait. Une raison de forme que j'appellerais de forme et une autre de fond. La raison de fond, c'est qu'on condamne un accusé qui a plus de 70 ans à vie. Il lui reste combien à vivre quand on connaît l'espérance de vie en Afrique. Et la deuxième chose, c'est que la justice panafricaine juge un homme, alors que normalement, ça devrait être un système qui doit être jugé, parce que ce n'est pas Hissène Habré seul qui a tué 30 000 personnes. Donc ça, franchement, moi, je ne comprends pas. Et la deuxième chose,
Ce que vous regrettez, c'est qu'Hissène Habré ait finalement été le seul à faire l'objet de poursuites par les chambres africaines extraordinaires qui ont donc jugé l'ancien président au Sénégal.
Tout à fait. Et au-delà de ça, ce que moi, je cherche, c'est plus une justice orientée vers la réconciliation nationale. Moi, je condamne la justice punitive aujourd'hui. Condamner Hissène Habré n'apporte en rien au repos des âmes, des victimes, ni aux familles vivantes encore. Moi, je voudrais qu'on se calque sur le modèle sud-africain, qu'on se dise, qu'on fasse la justice pour connaître la vérité de ce qui s'est passé, et plus essayer de mettre des mécanismes pour éviter que ça ne se reproduise. Mais faire une justice punitive, à mon avis, ça n'aide ni les victimes, ni leurs familles, ni l'Afrique toute entière aujourd'hui.
Oui. Et d'ailleurs, enfin, excusez-moi Mokhtar, vous dites que condamner Hissène Habré, ça n'aide pas les victimes. On a entendu un certain nombre de victimes réagir sur l'antenne des RFI après le verdict. On constate à l'unanimité un véritable soulagement après cette condamnation à la prison à vie tout de même.
Et soulagement par rapport à quoi? Est-ce que c'est Hissène Habré seul qui a été le bourreau de tout ce monde-là?
Alors après, effectivement, il peut y avoir une certaine frustration et dire Hissène Habré n'était pas tout seul. C'est tout un système, effectivement, qui avait été mis en place à l'époque. Là-dessus, personne ne le conteste. Mais vous ne pouvez pas dire que ce procès n'est pas utile tout de même pour les milliers de victimes du régime Habré.
Bon, vous voyez, ça dépend de comment vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, en fait. Moi, je pousse la réflexion aujourd'hui. Moi, je m'oriente vers le futur, je ne regarde pas le passé, en fait. Il faudrait qu'on se réconcilie. Mais ça, aujourd'hui, a plus besoin que jamais d'une réconciliation vraiment nationale. On a besoin de tous les fils du Tchad. On s'est dit les vérités, comme à l'image de ce qui s'est passé
en Afrique du Sud
et au Rwanda. On s'est dit les vérités, les victimes et les bourreaux se regardent en face et disent les vérités et on avance. On met surtout des mécanismes pour empêcher ce genre de choses. Et surtout, moi, je veux vous dire une chose. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de connaître quelque chose de dangereux sur le plan démocratique. Tous les chefs d'État veulent s'accrocher au pouvoir. Aujourd'hui, avec cette condamnation, on donne raison à tous ces chefs d'État-là, qui n'ont d'élections démocratiques que de nom, de s'accrocher au pouvoir parce qu'ils ont vu comment Hissène Habré a été humilié. Il a été transporté par des gorilles sénégalais, l'image a traversé tout le monde. Donc, ça peut donner de l'eau dans le moulin de tous les chefs d'État qui veulent s'accrocher au pouvoir pour rester. C'est ça, moi je vous dis, cette condamnation ne sert pas à l'Afrique.
En tout cas, c'est intéressant de vous avoir. C'est un point de vue, une analyse qu'on entend évidemment et qu'on avait envie d'entendre ce matin, puisque je le disais tout à l'heure en vous introduisant à l'antenne, vous allez un peu à contre-courant de tout ce qui a pu être dit dans l'émission et sur la page Facebook d'Appel sur l'actualité. Merci Mokhtar. Reste en ligne. Tiens Mokhtar, on a l'un de vos compatriotes qui nous appelle également de la capitale tchadienne. Bonjour Olivier.
Bonjour, monsieur Juan Gomez.
Vous avez été choqué par le comportement d'Hissène Habré tout au long de ce procès.
Oui, effectivement. Surtout son silence qui a été comme une grosse insulte encore, en dehors du massacre qu'il a fait sur le peuple tchadien, des meurtres qu'il a commis, des crimes et tout. Et il s'est encore tu pendant tout le procès. C'est comme une sorte de mépris pour les victimes qui sont tombées, de mépris même pour la mémoire des personnes qui sont mortes, de mépris pour le peuple tchadien qui est encore en vie, une sorte de mépris aussi pour les familles qui sont endeuillées. Il a manqué de respect pour toute l'Afrique et pour l'humanité entière finalement.
Ah, il est resté silencieux, impassible pendant toute la durée des audiences. D'ailleurs, il n'a jamais reconnu ce tribunal spécial créé par l'Union africaine pour le juger. À l'énoncé du verdict, il a levé les bras en saluant ses partisans qui étaient présents dans la salle et il a crié « Abba la France-Afrique ». Ça vous inspire quoi cette réaction ?
Ben, c'est du grand n'importe quoi. Lui, quand il était au pouvoir et qu'il tuait les gens, il se croyait tout puissant. Et maintenant qu'il est confronté à ceux qu'il a tués, au lieu de reconnaître ou ne serait-ce que leur dire pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui l'a poussé à commettre tous ces crimes, il s'est tué, il n'a rien dit et il met tout ça sur le dos de la France-Afrique. Ce n'est pas une histoire de France-Afrique. On peut comprendre qu'il y ait des mains derrière ça, mais c'est l'Afrique qui est en train d'avancer. Je crois que c'est plus ça qu'il devrait voir et plutôt reconnaître les faits à lui reprocher et demander pardon, ne serait-ce que par respect pour l'humanité.
Ouais, quand vous dites que c'est l'Afrique qui est en train d'avancer, c'est vrai que ce procès est historique, historique car c'est la première fois qu'un ancien chef d'État africain est jugé en Afrique. C'est la première fois au monde qu'un ancien président est jugé dans un autre pays que le sien pour des violations des droits de l'homme. Et c'est aussi la première fois, c'est important de le préciser, qu'un ancien chef d'État est condamné pour viol. Merci beaucoup Olivier de nous avoir appelé. On remercie Mokhtar qui a lancé le débat il y a quelques minutes sur l'antenne d'RFI. 33 9 693 693 70, c'est la libre antenne. Nous accueillons Henri, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Kinshasa et vous nous interpellez sur le racisme anti-africain en Inde après le meurtre il y a quelques jours d'un Congolais dans la banlieue de New Delhi.
Oui Juan, d'abord je voudrais présenter mes condoléances à cette famille éprouvée et à toutes les autres également qui ont connu ce même drame avant la mort de notre compatriote enseignant. Bon, écoutez, moi ce que je voudrais dire c'est ceci, nos compatriotes qui vont là-bas, c'est pour la formation qui du reste est entourée de contours extrêmement flous, parce qu'on a vu dernièrement sur France 24, le type de formation, comment ça se fait. Moi je voudrais ici interpeller le gouvernement indien, parce que nos compatriotes qui vont là-bas, ils vont pour étudier. C'est lui qu'on a tué, c'était pas un voyou, c'était pas un assassin, c'était pas quelqu'un qui était dans le réseau mafieux. C'était un enseignant de français, ainsi de suite. Alors, pourquoi tuer quelqu'un qui n'est là que pour former les gens? Alors que eux, ici, les Indiens au Congo, ils vivent même à la cité, nous sommes avec eux à la cité ici, personne ne les inquiète, ils font le commerce en violant même nos lois sur le commerce sur le petit détail, personne ne les inquiète. Alors, il faut que ça s'arrête, parce que c'est inacceptable d'inquiéter les gens qui sont là que pour la formation et qui ne vont pas rester chez eux et ils vont revenir dans leur pays pour y travailler. Il faut que leur gouvernement interpelle les Indiens, parce que ce qu'ils font, ils sont en train de mettre en mal les intérêts indiens qui sont en Afrique et notamment au Congo.
Alors c'est un point très intéressant ce que vous soulevez. C'est vrai que les ressortissants africains, sans généraliser, mais il faut quand même le dire, sont fréquemment attaqués en Inde, à tel point que cette semaine, les ambassadeurs africains à New Delhi ont publié un communiqué demandant à leur gouvernement d'envisager de ne plus envoyer de nouveaux étudiants africains en Inde tant que leur sécurité ne sera pas garantie. Et c'est vrai que ces agressions à répétition embarrassent les autorités indiennes qui ont des intérêts ou en tout cas des ambitions économiques sur le continent africain.
Ben, évidemment, Juan, moi je crois que cette mesure-là doit être prise en compte. Il faut que nos gouvernements, moi je vais parler du gouvernement congolais, il faut que notre gouvernement puisse peser de tout son poids, de sorte que cette mesure-là soit exécutée, soit respectée, jusqu'à ce qu'on nous garantisse des sécurités possibles pour nos frères et sœurs qui vont étudier là-bas. Moi, j'ai quelqu'un, mais un beau-frère, qui a étudié en Inde, mais il n'était pas attaqué directement, mais ses amis ont été attaqués. Oui. Donc, le gouvernement indien, je disais, avant que vous me coupiez la parole, je disais que le gouvernement indien doit tenir compte des intérêts économiques qu'il a en Afrique et au Congo notamment. Parce que prochainement, si ça continue, les Congolais également, ou d'autres Africains, vont aussi monter au créneau pour pouvoir venger leurs frères et leurs sœurs qui sont menacés de l'autre côté. Est-ce que ça sera une bonne chose? Est-ce qu'ils vont continuer à exercer leurs affaires qu'ils font en Afrique? Donc, ils ont tout à gagner en mettant les Congolais et les Africains dans une situation de paix, dans un climat de paix chez eux, pour garantir l'évolution de leurs activités ici en Afrique, plutôt que de laisser leur population maltraiter les gens, parce qu'après, on va les chasser aussi également chez nous. Hein.
Ouais, vous craignez, Henri, des répercussions, des conséquences, notamment à Kinshasa, auprès des Indiens qui résident sur place, si les autorités indiennes ne se montrent pas plus fermes après les meurtres commis contre des Africains, et la liste est longue, les exemples sont nombreux. D'ailleurs, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Inde assure que depuis quelques mois, pas une semaine ne passe sans qu'elle reçoive des demandes d'aide de la part des ressortissants qui se plaignent de harcèlement, de violence. Affaire à suivre. En tout cas, merci Henri de nous avoir interpellé sur cette actualité. Abdoulalim, vous nous appelez de Paris, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de l'émission.
Vous êtes comorien et vous souhaitez réagir à la situation extrêmement tendue à Mayotte, dans ce département français de l'océan Indien. Il faut quand même rappeler que depuis le début de l'année, plus d'un millier de personnes, et pour la plupart des Comoriens, ont été expulsés de leur domicile par des collectifs d'habitants qui ont vu le jour dans de nombreuses communes. En fait, vous disiez au Standard que les Comoriens sont devenus les Roms de Mayotte.
Oui, effectivement, nous avons aujourd'hui de nombreux Comoriens des autres îles. Donc j'ai dit de nombreux Comoriens des autres îles parce que Mayotte est considérée comme comorien par l'Union des Comores et la France a été condamnée plusieurs fois par les Nations Unies pour occupation de ce territoire. Mais ça, ce n'est pas le plus urgent. Le plus urgent aujourd'hui, c'est que nous avons de nombreuses familles, femmes et enfants, qui se trouvent chassés de leur demeure avec des maisons brûlées et qui se retrouvent dans une place publique depuis de nombreuses semaines sans que les pouvoirs publics réagissent. Mmh. Et moi, je suis étonné du laxisme des forces de l'ordre qui laisse des citoyens lambda chasser les autres comme ça sans qu'ils ne bougent.
Ouais, ce sont les habitants de Mayotte qui se font justice eux-mêmes. C'est ça qu'il faut raconter aux auditeurs qui n'ont peut-être pas suffisamment d'informations sur la situation à Mayotte. Ce sont des collectifs d'habitants qui se sont créés et qui ont décidé d'expulser les Comoriens. Certains dénoncent même une chasse aux sorcières. La CIMAD, qui est une association de défense des droits des étrangers, parle même de comorophobie. C'est dire la tension qui règne sur place.
Tout à fait, Juan. Et d'ailleurs, on entend souvent des mots comme « il faut chasser les cafards ». Moi, j'ai lu sur la page Facebook d'un enseignant de la République française qui utilise des mots comme « cafards » et ça vous rappelle des choses. Et là, on est au bord de la guerre civile et je pense que les pouvoirs publics français doivent prendre la chose à bras-le-corps et trouver une solution pour ces familles innocentes. Voilà, et je suis étonné du mutisme des médias français à métropole qui ne parlent pas de ce qui se passe dans ce qui est considéré comme le 101e département français depuis 2011.
Effectivement. Alors, vous parlez de mutisme. Nous, RFI, on en parle. Hier, en regardant rapidement la télévision, j'ai vu que mes confrères de France 2, envoyé spécial, avaient consacré un reportage justement à la situation à Mayotte. Donc, on en parle, peut-être pas suffisamment selon vous. Lorsque les habitants de Mayotte, en tout cas ceux qui appartiennent à ces collectifs, accusent les Comoriens d'être responsables du nombre important des agressions, des viols, d'être responsable des écoles surchargées, responsable également du système de santé qui déborde aujourd'hui à Mayotte. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une part de vérité dans ces propos?
Effectivement, il y a une insécurité galopante, il y a un chômage exponentiel qui a fait qu'il a fallu trouver des boucs émissaires. Et donc les boucs émissaires plus faciles à trouver aujourd'hui, ce sont les Comoriens. c'est tout simplement ce qui se passe. Donc, cette insécurité est le résultat d'une modernité subite et d'un chômage exponentiel qui fait que, oui, et d'ailleurs, il y a effectivement certains délinquants d'origine comorienne et qui sont le résultat d'expulsion de parents, parce qu'on ne peut pas expulser les enfants, et on retrouve des enfants qui sont qui grandissent sans leurs parents. Et quand vous avez des enfants qui sont désœuvrés, le résultat, c'est que effectivement, on arrive à une délinquance.
Je suis pas sûr. Excusez-moi, ça me semble un peu exagéré de dire que les que on expulse les parents et on laisse les enfants mineurs à Mayotte. J'ai du mal à concevoir que la France puisse faire cela, mais vous avez peut-être raison, Abdoul Halim. Merci en tout cas de nous avoir appelé de Paris pour nous interpeller sur ce sujet. Beaucoup de réactions concernant le procès de Simone Gbagbo. On en a parlé déjà cette semaine. En revanche, voilà un sujet. On aurait pu lancer le débat, mais on va le lancer maintenant. La polémique après les propos de Karim Benzema, affirmant que Didier Deschamps avait cédé, je le cite, sous la pression d'une partie raciste de la France en ne le sélectionnant pas pour l'Euro de football. Achille, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour aux auditeurs du Triste RFI.
Merci de nous appeler. Vous êtes où ? À Londres ?
À Londres.
Vous êtes à Londres. On va accueillir dans un instant Jacques de Brazzaville qui souhaite réagir également à cette polémique. On vous écoute, Achille.
Non, je crois que vous aviez très bien fait, Juan, en essayant de restituer les propos de Benzema. Il n'a jamais traité Deschamps de raciste comme les gens ont essayé de le faire croire dans une certaine presse. Mais ce qui est quand même clair, c'est qu'il faudrait aussi reconnaître une montée du Front National en France, ce qui fait qu'il y a une partie, je ne saurais jamais généraliser, une partie de la France qui est raciste. Ceci dit, il faudrait clairement dire que ce n'est pas seulement les performances sportives qui font qu'on doit être sélectionné dans une équipe. Il n'y a pas de doute sur la performance actuelle de Benzema. On l'a vu, son équipe a gagné la Ligue des Champions sous Zidane.
Le Real Madrid.
Oui, bien sûr. Et il est très important le rôle qu'il joue dans l'équipe de France. Cependant, je crois que le seul qui a la responsabilité de choisir ceux qui doit jouer dans son équipe, c'est l'entraîneur. Et l'entraîneur a été très clair. C'est pas seulement sur des bases de performance sportive, c'est aussi pour la cohésion de l'équipe. N'oubliez pas que celui avec qui il a une affaire en justice est déjà dans l'équipe et il joue un rôle important. C'est sa parole contre l'autre, nous on ne sait pas. Mais ce qu'on reproche aussi à Benzema, c'est qu'il n'arrive pas à communiquer. Lui et son agent n'arrivent pas correctement à communiquer. Et une partie de la presse française ne les tient pas forcément en amour. Rappelez-vous que 81% des Français ont soutenu la décision prise par Deschamps et le président de la Fédération française de football. C'est ce qu'on lui reproche, c'est son côté bling-bling, mais au-delà de ça...
Oui,
regardez,
c'est son côté bling-bling, et ce que lui reproche aussi un certain nombre de Français, c'est qu'il n'incarne pas de valeurs positives avec cette affaire de la sextape. Alors effectivement, il est présumé innocent, la justice n'a pas encore tranché, mais son comportement, quoi qu'il arrive, il n'est pas exemplaire. Donc à partir du moment où il n'est pas exemplaire et à partir du moment où il ne respecte pas le code de bonne conduite élaboré par la Fédération française de football, il n'a pas à être à porter le maillot de l'équipe de France en plus pour une compétition aussi importante que l'Euro. Vous disiez tout à l'heure que oui, effectivement, une partie de la France était raciste, c'est une évidence et sur ce point, je crois que personne ne l'a contesté, mais comme vous donniez des sondages à l'instant, Achille, je rappelle quand même que lorsqu'on demande aux Français de dire quels sont leurs personnalité préférée, eh bien chaque année depuis maintenant une dizaine d'années, c'est d'abord Zidane, c'est ensuite Yannick Noah et c'est depuis 2 ans Omar Sy, le comédien. Donc comme quoi, voyez, on peut relativiser aussi les propos de Karim Benzema et les contester surtout les contester. Merci à vous Achille, il y avait d'autres auditeurs, désolé, la libre antenne est passée très très vite. Merci à tous de votre fidélité. Lundi, nous parlerons de Karim Wade, l'ancien ministre et fils de l'ex-président du Sénégal a été condamné, vous le savez, il y a 1 an, à 6 ans de prison ferme pour enrichissement illicite. À l'époque, l'opposition avait dénoncé un procès politique. En tout cas, hier, sur notre antenne, sur RFI, le président Macky Sall a évoqué une possible libération de Karim Wade d'ici la fin de l'année. Qu'en pensez-vous ? On en parlera évidemment.